Voici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes à Bruxelles pour notre émission Ici l'Europe, et toujours sur France 24 et Radio France Internationale. Alors le 29 janvier, la Commission européenne a présenté sa boussole pour la compétitivité. Elle veut un choc de simplification pour les entreprises, des mesures de soutien à court terme pour l'automobile et l'industrie propre. L'enjeu est d'agir vite face au retour de Donald Trump et au ralentissement de la croissance européenne. Alors nous avons le plaisir d'être aujourd'hui au Berlaymont qui abrite la Commission européenne pour parler à la première vice-présidente exécutive de cette commission, Teresa Ribera. Bonjour. Je précise que vous êtes en charge de la transition juste, propre et compétitive. Alors vous êtes espagnole, issue des rangs socialistes puisque vous avez été ministre pendant 6 ans du gouvernement de Pedro Sanchez en charge justement de cette transition écologique. Alors que le constat est celui d'un décrochage de l'Union européenne par rapport aux États-Unis, à la Chine en matière de compétitivité, est-ce que cette boussole européenne va nous remettre sur les rails et surtout vite ?
C'est l'intention. C'est ça qu'on essaye de faire, d'identifier quels sont les leviers, les sujets qui puissent nous accélérer et une compétence, une capacité meilleure de l'industrie européenne pour les marchés internationaux. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut se concentrer, il faut agir pour avoir une compétitivité qui dure dans les années à venir, mais qui est capable aussi de donner des réponses à court terme pour assurer que l'industrie européenne, que la capacité de produire en Europe reste une capacité innovante et qui croit des emplois de qualité pour les Européens.
Alors justement, la Commission annonce pour le mois prochain un grand texte qualifié de omnibus qui va apporter des simplifications substantielles aux précédentes lois de devoir de vigilance, de reporting extra-financier des industries qui devaient mesurer finalement l'impact écologique et social de leur activité. L'objectif, c'est d'épargner des effets cascades, en particulier sur les toutes petites entreprises et les PME. On nous parle de simplification depuis des années sans jamais réussir à enlever les couches du millefeuille. Qu'est-ce qui va se passer de mieux ?
C'est toujours le cas. Comment on peut arriver, comment on peut achever une simplification qui donne l'essence, la direction qu'on veut soutenir et en même temps qui soit capable de faciliter la vie aux entrepreneurs et en particulier les plus petites. Et c'est vrai que ces paquets dont on parle, c'était un paquet qui était conçu pour assurer que les gens puissent investir et pas gaspiller l'argent. Comment on fait des investissements qui sont sages, qui peuvent durer et dans les temps. C'était quelque chose qui a été développé en France autour de l'accord de Paris il y a pas mal de temps. Et c'est vrai que parfois, on doit nous rappeler comment on peut assurer qu'on fait un investissement qui soit intelligent. Mais en même temps, il faut simplifier, il faut faire qu'il soit facile pour n'importe qui, pour tout le monde.
Quand vous dites simplifier, est-ce que ça ne veut pas dire déréguler ? Parce que véritablement, ces textes européens qu'on veut simplifier, ils ont été adoptés il y a moins d'un an. Ils imposent plus de rapports et d'obligations aux grandes entreprises en particulier. Veiller à ce que leurs activités et celles de leurs sous-traitants respectent les droits humains et la protection de l'environnement. Est-ce qu'on n'est pas en train de, sans le dire, sacrifier le fameux pacte vert ?
C'est très important de souligner qu'on ne veut pas sacrifier les pactes vertes. Les mêmes raisons qui nous ont menés à comprendre comment les parcours économiques, la prospérité, les développements devaient changer vers quelque chose de beaucoup plus durable restent encore plus fortes. On a déjà vécu des expériences traumatiques autour des dérèglements climatiques. Alors il faut accélérer cette transition. Mais en même temps, cet exercice d'apprentissage, comment on apprend à investir mieux l'argent à la place de gaspiller l'argent, quelque chose que la présidente de la Commission insiste et tous les jours, c'est que les buts, les objectifs, l'horizon est encore là. La manière dont on définit les parcours doit être suffisamment facile pour que tout le monde puisse joindre cet exercice.
Alors, il y a quand même des critiques autour du pacte vert. Elles se font d'ailleurs de plus en plus virulentes, y compris dans la bouche d'un Premier ministre polonais, Donald Tusk, alors que la présidence du Conseil de l'Union européenne va à la Pologne avec 37 millions d'habitants qui demeurent dépendants à 63% de sa production d'électricité du charbon. La droite, cette droite donc du PPE, Donald Tusk, l'extrême droite aussi, en veulent au pacte vert. Est-ce que votre commission va réussir à décarboner?
Je pense que c'est l'intention. C'est ça qu'on veut faire, agir et être capable d'identifier les choses en concret sur le terrain qui nous facilitent et ces compromis d'une manière qui bénéficie à tout le monde. Et c'est vrai que parfois il y a des malentendus et dans la discussion politique, dans la discussion publique, mais on sait bien que l'énergie propre facilite des prix beaucoup plus bas et beaucoup plus prédictibles que l'énergie qui dépend des importations de fossiles fuels, qu'en plus, il a un impact meilleur sur la santé des citoyens, qu'en plus, ça donne une opportunité pour produire les équipements, pour produire les systèmes et les services qui nous facilitent une énergie beaucoup plus autonome et qui ne dépend pas des importations de l'extérieur. Alors, tout ça sont des bénéfices pour les citoyens. Est-ce qu'on va changer d'avis? Non, bien sûr que non. La question, c'est comment on peut assurer que dans la transition, il n'y a pas des impacts négatifs sur les citoyens ou sur les consommateurs industriels qui ont moins de ressources, mais qui doivent payer plus parce qu'on essaye de refléter sur les prix les coûts réels de la pollution.
Oui, oui, cela dit, les usines à charbon en Pologne, comment finalement mettre l'argent sur la table pour pouvoir réformer cette industrie dépendante aux deux tiers, c'est compliqué. Ça reste compliqué.
Ça a été les débats pendant des années et des années. Mais il faut dire qu'en Pologne aussi, il y a des changements très profonds dans les systèmes énergétiques. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils découvrent qu'il y a une dépendance beaucoup plus bas des fossiles, les rend des opportunités nouvelles. Et ils essayent de faire un changement très rapide. Ils proportionnent des chiffres beaucoup plus meilleurs qu'il y a 10 ans ou 5 ans. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et en même temps, il y a un facteur culturel, bien sûr. Bien sûr, dans des régions où il y a eu des mineurs de charbon pendant des générations, ils ont développé une capacité, une solidarité qui est très importante. Alors comment on peut rendre tribut, hommage à ceux qui sont une richesse pour la région, mais qui en même temps ont envie de combiner pas seulement la durabilité à long terme, mais arriver à la fin du mois avec un salaire, avec un boulot, avec quelqu'un qui puisse soutenir les familles. Et c'est la question. C'est pour ça que la transition juste est si importante. Imaginez comment on peut répondre les questions, les doutes des travailleurs, mais aussi des consommateurs.
Vous avez mentionné, Teresa Ribera, que nos prix de l'énergie sont très hauts, sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux des Américains. Un plan d'action pour une énergie abordable va donc proposer de nouvelles méthodologies en matière de tarifs, et puis la facilité de conclure de grands accords d'achat. Alors c'est vrai que la France se plaignait, qu'on ne prenait pas en compte le fait qu'elle avait dans son mix énergétique beaucoup de nucléaire. C'est vrai que vous, en Espagne, vous avez beaucoup de renouvelables et que tout est aligné sur les prix du gaz. On est un peu dans l'aberration en matière énergétique et de prix.
C'est vrai, on a vécu déjà ça. Il y a des ans, on avait vécu l'impact des prix des gaz naturels sur l'électricité. Il avait pollué les prix de l'électricité, même si les coûts de produire l'électricité n'étaient pas exactement les mêmes prix que les prix d'opportunité des gaz naturels. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut se battre. On avait pris des mesures qui ont un impact à long terme. On sait bien que le fait qu'il y a eu un développement sur les énergies renouvelables pendant les dernières années permettait aux Européens d'éviter un paiement de 59 milliards d'euros pendant la crise. Ça, c'est quelque chose de très, très, très apprécié, très, très apprécié, très important. Mais on sait bien qu'il y a encore un parcours devant nous qui n'est pas achevé. Alors, comment on peut jouer avec les différents éléments, les infrastructures, les interconnexions qui nous permettent d'avoir une coordination des éléments de production complémentaires? Comment on peut favoriser la production électrique sans carbone, bas carbone, dans tous les pays de l'Europe qui puissent nous mener dans un prix d'électricité beaucoup plus prédictible et sont une bonne partie de ces plans d'action pour l'énergie à bon prix et qu'on va adopter à la fin du mois de février.
Alors la Commission va publier d'ailleurs en 2026 de nouvelles lignes directrices pour l'évaluation des fusions-acquisitions, ouvrant la voie à la constitution de champions européens capables de rivaliser avec les Américains et les Chinois. On a presque envie de dire, il était temps, est-ce qu'on n'a pas été les grands naïfs du village global en finalement empêchant les monopoles ou les positions dominantes chez nous, donc de constituer des géants, et un peu moins d'ailleurs en régulant beaucoup moins peut-être à l'étranger.
Je pense qu'il faut se demander, est-ce qu'on serait... contente d'être un citoyen moyen qui habite en Chine ou un citoyen moyen qui habite aux États-Unis où on apprécie la manière dont on vit en Europe. Et je suis convaincue que pour une grande majorité des Européens, on apprécie des modes de vie en Europe. Et c'était déjà passé le temps où c'était les Européens qui marquaient les prix, la demande, l'offre. Et on était les grands et joueurs dans les marchés internationaux. Maintenant, il y a beaucoup plus de pays qui essayent de participer dans les marchés internationaux, y compris de venir au marché européen.
Alors, il est très segmenté pour nous, en fait.
Il faut continuer à développer les single market, les marchés européens uniques qui nous permet de nous bénéficier de cette... marché unique et pas 27 marchés.
À l'échelle des 450
millions. Des 450 millions de personnes. Mais en même temps, si les marchés de référence n'est pas les marchés européens, mais les marchés globaux, il y a de la place pour faciliter un rôle aux champions européens. Si par contre, c'est des marchés, c'est des productions qui sont plutôt dans les contextes européens, il faut faire attention à ne pas faciliter des concentrations qui pourraient avoir un impact négatif sur les consommateurs, consommateurs privés ou consommateurs industriels. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on a déjà commencé à actualiser la manière dont on comprend que le rôle de la production et de la consommation n'est plus seulement coincé dans des limites géographiques comme il s'était traditionnellement. Comment on peut rester un marché ouvert et en même temps assurer que les industriels européennes qui font attention aux droits des travailleurs, aux standards environnementaux, à la santé publique, ne sont pas battus par des producteurs qui n'ont pas les mêmes standards dans des questions si importantes pour nous.
Alors, revenons, si vous le voulez bien, à votre pays, l'Espagne, et aux terribles inondations du 29 octobre 2024 qui ont fait 222 morts et ont affecté de vastes zones du pays valencien. Et les conséquences vont se faire ressentir pour longtemps, comme nous le reporte Armel Exposito.
À une dizaine de kilomètres de Valence, des tonnes de déchets se décomposent à l'air libre.
Tu vois, ça c'est le risque.
Un mois après la catastrophe qui a fait 222 victimes, les 2 hectares de rizière de Francesc et de son père Vicente se sont transformés en une immense décharge.
Il y a de la peinture, des déodorants, des détergents. Tout ça va être absorbé dans le sol et peut-être même rester dedans. Et nous devrons cultiver avec tous ces différents types de plastique.
L'eau du fleuve voisin a inondé une zone industrielle avant de déferler sur leurs terres.
Je n'ai pas peur, j'ai juste de la peine. Il y a trop d'ordures.
À 76 ans, Vicente n'avait jamais connu une telle catastrophe.
Je ne pensais pas voir ça un jour. J'ai connu plusieurs crues, j'ai vu des récoltes se perdre, mais ça, à mon âge, ça me dépasse. Je me sens un peu abandonné.
Ces terres font partie de l'Albufera, une réserve naturelle de plus de 21 000 hectares, parmi les plus grandes zones humides du pays. À quelques kilomètres de là, dans le village d'El Palmar, c'est une pollution invisible à l'œil nu qui inquiète.
Salut José Luis, comment ça va?
Écoute, toujours à l'arrêt.
Les pêcheurs ont eux-mêmes prélevé des échantillons d'eau pour les faire analyser.
Les analyses montrent que l'eau contient un grand niveau de matière fécale. Certaines stations d'épuration ne fonctionnent pas à 100% ou sont hors service. Le réseau d'assainissement est aussi touché. Il va falloir réparer tout cela rapidement pour éviter un plus grand désastre.
Mais la tâche s'annonce très longue. Les inondations ont touché plus de 120 stations d'épuration et détruit de nombreuses canalisations.
Alors, Teresa Ribera, ces inondations dans votre pays, l'Espagne, elles sont l'effet du réchauffement climatique, vous diriez, parce que le climato-scepticisme qui est prôné maintenant par Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce qu'il vous semble augmenter aussi en Europe ?
Ça, c'est peut-être les dangers, la manière dont on manipule et la perception des gens. Le réchauffement a des conséquences terribles et alors ils préfèrent croire qu'il n'existe pas. Mais il existe et il a des conséquences humaines horribles, catastrophiques, mais il a des conséquences économiques catastrophiques aussi. On les voit avec les inondations et comment la récupération des terroirs, des activités économiques et bien sûr la perte des vies humaines, la capacité de faire sonner les alarmes quand il faut, est terrible. Mais on le voit aussi et à Los Angeles. Et alors on voit à quel point les assureurs sonnent l'alarme, ont sonné l'alarme déjà et il y a très longtemps pour dire, on voit, et ça c'est des réalités, que ça monte avec des pertes économiques. Il faut faire attention et ne pas se tromper. La réalité est là, il faut se préparer pour éviter les conséquences les plus dures.
En tant que vice-présidente de la Commission européenne, au moment des auditions devant le Parlement européen, vous avez été très chahutée par la droite espagnole, le parti d'opposition hein, au Parlement européen, sur la responsabilité du gouvernement Sanchez dans la gestion de la crise. Cette gestion qui est évidemment plutôt à la région, qui était dominée hein, par la droite espagnole. Quelles leçons vous tirez de toutes ces polémiques aujourd'hui ?
Il ne faut pas se moquer de la réalité. Il faut insister sur les faits qui c'est réel, c'est important, c'est grave, il faut être préparé et il vaut toujours mieux avertir, souligner, donner l'occasion, l'opportunité aux gens à réagir, qui n'est pas dire que c'est moins important de ce qu'il est. Alors, le développement des systèmes d'alarme, la capacité de connecter avec les gens, la capacité d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations qui seront de plus en plus fréquentes dans nos géographique est très important. La capacité de bâtir, de construire la résilience à l'Europe est aussi importante. Il y a des rapports qui montrent déjà que les changements climatiques pourraient nous mener à une situation où une bonne partie des Européennes pourront mourir. Et à la fin des siècles, si jamais on ne réagit pas, pas seulement pour réduire la chaleur, les réchauffements, mais aussi parce qu'on doit s'investir vers l'adaptation, vers la capacité de devenir beaucoup plus résilient.
Alors, en tant que première vice-présidente de cette commission, Teresa Ribera, le 15 janvier dernier, vous avez dû remplacer Ursula von der Leyen, qui était victime d'une très mauvaise pneumonie. Et donc, vous avez présidé le collège des commissaires. Mais tout de même, il y a eu beaucoup de critiques autour du silence initial de la commission. Est-ce qu'il ne faut pas plus de transparence sur ces questions ?
Je pense qu'il était convaincu qu'il pourrait et se récupérer plus tôt et que les choses se sont développées d'une manière, on pourrait dire, normale. C'est vrai, en même temps, que les systèmes pour assurer la capacité d'action de la Commission existent. Mais c'est vrai aussi que c'était un peu plus impactant parce que c'était au début du mandat. Alors, on attendait une capacité de réaction vis-à-vis des événements dans la scène internationale beaucoup plus visible et ça a été comme ça. Mais je pense que c'était joué dans les contextes, on dirait, de la normalité.
Merci Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne en charge de la transition juste, propre et compétitive, d'avoir été notre invitée sur France 24 et Radio France Internationale. Bien sûr, vous restez sur nos antennes pour plus d'informations européennes et internationales.